Bonjour à chacun. C'est avec joie que j'ai l'occasion de me présenter encore à nouveau devant vous. Et c'est avec une question que j'aimerais commencer ce message. Quels sont les critères clés pour choisir son partenaire? Et c'est intéressant parce que c'est pour répondre à cette question que des chercheurs d'une université en Californie ont interrogé 28 000 hétérosexuels âgés de 18 à 75 ans en leur demandant ce qu'ils cherchaient en priorité chez les autres. Triste, mais la réponse, elle est un peu cliché. Ainsi, 80% des hommes cherchent en priorité des femmes minces, alors que 97% des femmes pensent qu'un revenu stable est essentiel. Ça ne va pas arranger le cliché des hommes obsédés par le physique et des femmes qui ne cherchent qu'un sugar daddy. Mais est-ce que ces critères nous permettent de connaître notre partenaire? Nous le savons très bien que chaque matin, ce n'est pas avec notre porte-monnaie ou avec le physique de notre épouse que nous nous réveillons, mais c'est avec son caractère. Connaissons-nous le caractère de Dieu et ce que cela implique? Une nouvelle fois, Dieu se révèle non plus seulement au prophète Ésaïe, mais cette fois-ci au peuple tout entier. Et je vous avertis, ça déménage. Je vous invite à lire avec moi Ésaïe 33. Malheur à toi, dévastateur, qui n'a pas été dévasté. Malheur à toi, le traître, qui n'a jamais été trahi. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté. Quand tu auras achevé de trahir, tu seras aussi trahi. Éternel, fais-nous grâce, car nous comptons sur toi. Chaque matin, sois notre force. Délivre-nous au temps de la détresse. Au bruit d'un grand tumulte, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les gens des nations se dispersent. On rafle leur butin comme raflent les sauterelles, et l'on se rue dessus comme se précipite un essaim de criquets. L'Éternel est sublime, car il siège là-haut. Il remplira Sion de la droiture et la justice. Tu passeras tes jours dans la sécurité. La sagesse et la connaissance sont les richesses du salut. Et craindre l'Éternel, tel est tout ton trésor. Les vaillants hommes crient dans les rues, les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes, plus personne ne passe sur les chemins. Le dévastateur a rompu l'alliance. Il méprise les villes, il n'a pas de respect pour personne. Le pays est en deuil, il dépérit, le Liban est confus. Ses arbres sont flétris, la plaine du Saron ressemble à un désert. Le pays du Bazan et le mont du Carmel ont perdu leur feuillage. Maintenant je me lève, dit l'Éternel, maintenant je me dresse, oui, maintenant je montre ma grandeur. Vous ne concevez que du foin, vous n'enfantez que de la paille, votre souffle est le feu qui vous consumera. Les peuples seront brûlés à la chaux comme des épines coupées qu'on y met le feu. Vous qui êtes au loin, écoutez donc ce que j'ai accompli. Et vous qui êtes près, connaissez ma puissance. Les pécheurs dans Sion ont été terrifiés. Ceux qui ne respectent pas Dieu se sont mis à trembler. Ils s'écrient, qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consume? Qui pourra séjourner auprès des brasiers éternels? Celui qui se conduit selon ce qui est juste et qui parle toujours selon ce qui est droit, qui rejette les gains acquis par extorsion, qui n'accepte jamais de pot de vin, qui ferme ses oreilles aux propos criminels, qui se bouche les yeux pour ne pas voir le mal. Cet homme habitera dans des lieux élevés, des rochers fortifiés lui serviront d'abri. Son pain lui sera assuré et l'eau ne lui manquera pas. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté et ils verront toute l'étendue du pays. Tu te souviendras de tes craintes et tu demanderas où donc est l'inspecteur de celui qui percevait les taxes, où est le contrôleur des tours? Non, tu ne verras plus tout ce peuple arrogant, peuple à la langue obscure. Mais tu contempleras Sion, la cité de nos fêtes, tes yeux verront Jérusalem, résidence tranquille, tente qui ne fera plus enlever, dont les piquets ne seront plus jamais arrachés et dont aucun cordage ne sera plus tranché. Là, l'Éternel se montrera magnifique pour nous. Et ce sera une région de larges fleuves et de vastes canaux. Aucun bateau à rame ne s'y avancera, aucun vaisseau splendide n'y passera, car l'Éternel est notre chef. Il est notre législateur. Oui, l'Éternel est notre roi et il nous sauvera. Quant à vous, Assyriens, vos cordes relâchées ne tiennent plus le mât. Ils ne sont plus capables de déployer les voiles. Tous en prendront leur part, y compris les boiteux. Alors on partagera un immense butin. Aucun des habitants ne se dira malade. Le peuple qui habitera à Jérusalem recevra le pardon de ses fautes. J'aimerais vous laisser un résumé graphique de la première moitié du livre d'Ésaïe. Pour ceux qui sont peut-être un peu perdus dans ce livre, malgré notre série, alors je vous propose ce résumé. Au cœur du livre d'Ésaïe se trouve la foi en Dieu. Tout le livre regarde à la foi de deux rois de Juda, le royaume du sud de la Palestine. Quand on regarde la carte, on voit que c'est le royaume qui est au sud. Ces deux rois sont le roi Akaz et le roi Ézéchias. Le premier, Akaz, qui a vécu entre 732 et 715 avant Jésus-Christ, est attaqué par deux petits royaumes, deux petites souris. Le royaume d'Aram, que vous voyez sur la carte, la Syrie actuelle, et le royaume d'Israël, juste au-dessus de Juda. Au lieu de placer sa confiance en Dieu, comme Ésaïe l'invitait, il décide d'acheter la protection de l'Empire d'Assyrie, le gros chat de l'époque, comme nous l'a montré Samuel dans la dernière prédication. Les conséquences de cette situation sont dramatiques. Israël, le royaume du Nord, est donc exilé en 722 avant Jésus-Christ, et Samarie, sa capitale, est prise par l'Assyrie. Et c'est l'exil de toute une partie d'Israël. Le deuxième roi, Ézéchias, qui a vécu de 715 à 686 avant Jésus-Christ, qui règne juste après Akaz, se trouve confronté, lui, à une période où l'empire assyrien est un peu affaibli. Face à cette situation, Ézéchias décide de se révolter de la domination assyrienne, notamment de dénoncer l'alliance contractée par son père. Sans doute, l'Égypte, grand empire concurrent, a sponsorisé ce type de révolte et assuré la protection des pays qui se soulèveraient contre la Syrie. Ézéchias était donc tout naturellement tenté, plutôt que de placer sa confiance en Dieu, de se tourner vers l'Égypte. Et c'est tout ce qui est au cœur des chapitres 28 à 35. Mais voilà, la Syrie ne l'entend pas de cette oreille. Sans doute, Ézéchias a bien en tête les événements de 701, il a bien en tête les événements de 722, 20 ans plus tôt, la prise du royaume du nord, de Samarie, quand Sennachérib, le responsable de l'empire d'Assyrie, envisage d'attaquer les villes de Juda. L'allié égyptien n'a pas fait le poids. Les responsables de Juda ont tout fait pour s'en sortir par eux-mêmes, quitte à vendre les bijoux de famille, comme on l'a vu plus haut. Ézéchias, ayant épuisé toutes les possibilités, décide de se tourner vers Dieu. Or, face à cette situation, Ézéchias fait volte-face, voyant la menace approcher. Il décide une dernière manœuvre, qu'on peut lire en 2 Rois 18, envers le roi d'Assyrie. 2 Rois 18, versets 13 à 16. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sennachérib, roi d'Assyrie, vint attaquer toutes les villes fortifiées de Juda et s'en empara. Alors, Ézéchias, roi de Juda, fit transmettre au roi d'Assyrie, à Lachish, le message suivant. J'ai commis une faute, cesse de m'attaquer, et j'accepte de payer le tribut que tu m'imposeras. Le roi d'Assyrie exigea d'Ézéchias 10 tonnes d'argent et 1 tonne d'or. Ézéchias lui fit donc porter tout l'argent qui se trouvait dans le temple de l'Éternel, dans le trésor du palais royal. Il dut même arracher les plaques d'or dont il avait fait revêtir les portes et les linteaux du temple de l'Éternel pour les donner au roi d'Assyrie. Il a vendu les bijoux de famille, il a tout vendu, il a tout donné au roi d'Assyrie pour éviter que celui-ci vienne attaquer ses villes fortifiées. Mais malgré cela, on lit au verset 17. Le roi d'Assyrie, juste après ce qu'on vient de lire, le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, son général en chef, son chef d'état-major et son aide-de-camp accompagné d'une puissante armée. Lorsque les 3 officiers supérieurs furent arrivés en haut de la côte, près de Jérusalem, ils prirent position près de l'aqueduc du réservoir supérieur qui est sur la route du champ du teinturier. Ils viennent pour attaquer la ville de Jérusalem. Ézéchias s'est fait rouler. C'est le contexte historique de notre chapitre. Que doit-il faire? Comment réagir pour être délivré de cette situation? Ésaïe donne la réponse de Dieu. Dieu va intervenir pour anéantir votre pire ennemi. Mais allez-vous lui faire confiance? Dieu est tout puissant pour détruire notre pire ennemi. Mais allons lui faire confiance. Et le prophète Ésaïe commence par un seul mot. Malheur! Or, le malheur, contrairement aux 4 précédents, les chapitres précédents ne concernent plus Juda, mais son principal ennemi. Parce que Juda a abandonné cette fois la confiance en elle-même, en sa propre capacité. Cette fois-ci, le malheur va se tourner vers son principal ennemi. Dieu a entendu, verset 2, la voix au moins du reste croyant qui en appelle à la grâce de Dieu. Même si son appel est tardif, Éternel, fais-nous grâce, car nous comptons sur toi. Dieu a toujours attendu pour les délivrer. Il est quand même difficile de juger trop sévèrement le peuple de Juda, car l'ennemi était grand et on l'a vu la fois dernière. C'était juste le plus grand empire de l'époque. Et il y avait des raisons d'avoir peur. D'autant qu'il était sanguinaire. Nous faisons tous face à des situations qui nous paraissent insurmontables. Souvent, nos amis ne font pas d'une grande aide ou utilité parce qu'ils mesurent mal parfois l'intensité qui se présente devant nous, devant chacun d'entre nous. Chacun a son grand ennemi. En plus, le verset 1 nous rappelle, nous martèle quelle était la capacité de cet empire, sa capacité à détruire. Et on le voit par la répétition du verbe ravager, du verbe trahir. Ils n'avaient aucun scrupule à rompre les contrats conclus, mais ils écrasaient par contre ceux qui se rebellaient et qui les remettaient en cause. Mais Dieu lui prévoit le malheur. Une fin à sa lumière. Quand tu auras achevé de trahir, tu seras toi-même aussi trahi. D'ailleurs, pas besoin de douter de sa puissance, même envers le plus grand empire. Rien qu'au son de sa voix, verset 3, rien ne tient devant le Dieu Tout-Puissant. Même si les puissants ont volé le butin des faibles, Dieu les en dépossède pour le leur rendre, verset 4. Devant une telle puissance, verset 5, qu'on retrouve dans la manifestation de cette hauteur de Dieu, c'est lui seul qui mérite notre honneur, notre respect. Dieu seul est vraiment élevé. Verset 6. On voit que ce grand tournant intervient à chaque fois que Dieu n'est pas juste un roi parmi d'autres, mais le seul, notre seul roi. Et il s'ensuit toujours une restauration et une délivrance, même si elle ne prend pas toujours la forme que nous pensions. La personne qui craint l'Éternel, verset 6, la personne qui craint l'Éternel, le fait d'admettre que sa destinée est entre les mains de quelqu'un d'autre, voilà le sens pratique de la crainte de l'Éternel, peut expérimenter tout cela, car il est en contact avec la source de la vie. Mais Dieu n'est pas seulement le Tout-Puissant pour détruire notre pire ennemi. Il est aussi un feu qui consume le mal. Alors nous sommes appelés à désirer le bien. Versets 7 à 16. Sennachérib, qui avait accepté la richesse d'Ézéchias, comme on a pu le voir, et qui après s'était de suite enclenché dans la destruction, dans sa volonté de détruire la ville de Jérusalem. Pourtant, lorsque les ambassadeurs, verset 7, les héros reviennent bredouille, verset 7, du camp de, justement de Sennachérib, c'est la constatation, l'analyse que l'Assyrie nous a trahis. Les routes sont désertes. Une image pour décrire que le pillage est tout près. On sait que les règles de la guerre sont fragiles, car elles donnent toujours un semblant d'ordre, mais dans une situation où le chaos est déjà là. C'est le deuil qui est de rigueur. Verset 9. La terre souffre avec le peuple. Toute la terre devient, pour ainsi dire, de la terre brûlée sous le poing de fer de l'Assyrie. Devant ce moment, sans doute, c'est le vide. C'est le monde qui a dû s'effondrer pour Ézéchias. Pourtant, c'est le genre de moment, paradoxalement, que Dieu attend. Ne croyons pas que ce jour, c'est seulement celui des Israélites. Beaucoup d'hommes et de femmes feront face à ce jour. Or, face à ce jour, c'est la terreur, c'est la détresse, c'est le deuil. Et face à cela, une constatation que tous les hommes font. La vie est dure. Une question suit. Mérite-t-elle d'être continuée? Il n'y a plus souvent que deux choix. Le désespoir qui se tourne vers la mort comme pour enfin trouver du repos. Ou, au contraire, de lâcher totalement prise pour se tourner vers celui qui est autre, Dieu, pour expérimenter son secours. Si nous plaçons notre confiance en Dieu, nous pouvons être certains qu'il y aura toujours un maintenant divin. Et le verset 10 est extraordinaire. Il est même répété trois fois, maintenant, oui maintenant, oui maintenant. C'est beau de l'entendre, c'est beau de l'attendre. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi le reconnaître. Reconnaître le maintenant de l'intervention de Dieu. Et il n'est pas surprenant non plus que le maintenant suive le cadre désespéré des versets 7 à 9. L'échec humain est toujours une opportunité divine. Je me rappellerai toujours de cet homme qui, après avoir vendu son entreprise et encaissé des centaines de milliers d'euros, et après en avoir recréé une, et cette fois-ci, au contraire, avoir perdu l'ensemble de ses gains et même généré des dettes qui sont venues sur son patrimoine personnel, se lamenter de ne pas avoir profité de l'argent qu'il avait eu au départ, de la vente de ses entreprises. Pourtant, il oubliait une chose. Il oubliait juste que pendant ce moment, au moment où il avait tout perdu, Dieu était intervenu puissamment pour lui. Et qu'au plus profond du trou, il avait expérimenté la véritable intervention de Dieu. Il avait été gardé du suicide. Et même malgré les dettes, même malgré le fait d'avoir presque tout perdu, il n'avait, depuis cette date, jamais manqué. Dieu avait toujours pourvu. Mais avait-il vu le maintenant de Dieu dans sa propre vie? Dieu était intervenu puissamment. Voilà bien une réalité que le français chrétien a bien du mal à intégrer. L'échec met souvent en évidence la réalité de la vie humaine et sa fragilité. C'est dans les moments d'échec que l'on ressent le mieux cela. Et c'est pourtant ces moments que l'on veut toujours éviter. On veut éviter à nos enfants l'échec. Donc on est prêt à tout pour eux, leur mettre une pression monumentale à la réussite de leurs études. On est même prêt à leur préparer l'avenir avec des donations de biens immobiliers que l'on aurait acquis pour leur éviter le manque et pour leur éviter une situation critique. Mais est-ce réellement ce que nous léguons de meilleur? Ne sommes-nous pas en train justement de leur éviter la nécessité de ces moments critiques de rencontre avec Dieu? Parce que c'est précisément ces moments critiques que Dieu attend pour que nous nous tournions vers lui. Il n'est jamais trop tard pour le temps de la grâce, pour le temps de l'intervention divine. Et se tourner vers Dieu ouvre souvent sur la nuit de l'aujourd'hui et met sur cette nuit une lumière d'espoir dans un monde de ténèbres. Or, quand Dieu intervient, versets 11 et 12, et qui déploie sa puissance, ce n'est pas le gentil papa gâteau avec une grande barbe, mais le Dieu qui est un feu dévorant, versets 11 et 12, qui détruit le mal. Et ce mal était incarné à l'époque par la machine destructrice et violente de la Syrie. Verset 11, tout est brûlé, y compris même le souffle destructeur de la machine assyrienne. La justice de Dieu intervient dans notre monde, même si elle intervient souvent trop lentement à notre goût. Verset 12, malgré la puissance et la gloire des empires, la chute apparaît parfois si soudaine. Notre situation actuelle. Or, devant une telle vision de Dieu, ce Dieu, ce feu qui consume, Dieu appelle à prendre conscience de cela. Dieu est un feu dévorant. Et cet appel concerne tous les hommes. Et devant cet appel, devant cette prise de conscience, une question jaillit. Qui pourra? Qui de nous de rester en présence de ce feu qui consume? à cet appel, Dieu s'adresse par son prophète à ceux qui sont loin, verset 13, mais aussi et surtout à ceux qui sont proches. Le verset 14 le suggère, les pécheurs dans Sion ont été terrifiés. Quand ils verront la puissance de Dieu se manifester contre la Syrie, il y aura de la terreur parmi les Juifs incrédules de Juda. Ça ne veut pas dire que pour croire, il faut être terrifié, mais cela veut dire qu'à moins que nous ne soyons pas parvenus à un moment à reconnaître la différence absolue entre Dieu et nous-mêmes, nous sommes susceptibles de dévaloriser la grâce infiniment bonne de Dieu, cette intervention de Dieu. Juda avait pris Dieu pour acquis, mais ils étaient des pécheurs. Or, quand le feu vient sur la Syrie, eux aussi vont trembler. Et pourtant, c'est en même temps le début de l'espoir. Juda doit réfléchir, car il va y avoir du feu en Sion, à Jérusalem. Et est-ce que ses habitants sont prêts à y habiter? Verset 14. Ce feu n'est pas passager, c'est son essence même. Il dure pour l'éternité. Verset 14. Pas d'espoir que la flamme s'éteigne un jour. Face à cela, la question du verset 14 résonne et devrait résonner. Qui de nous pourra séjourner auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra séjourner auprès d'un brasier éternel. Et nous, est-ce qu'une certaine familiarité avec Dieu et avec Jésus a engendré une certaine complaisance avec le mal, comme vivait Juda? Comme avait vécu Ézéchias? Est-ce que la passion de celui qui vient d'entendre et découvrir l'évangile et qu'il extériorise par son désir de parler du Christ nous fait honte à nous qui le connaissons depuis tant d'années? Nous faut-il redécouvrir cette sainteté de Dieu pour renouveler notre engagement à suivre Jésus? Non pas juste à la marge, mais pour toutes les décisions de nos vies, du paiement de mes impôts jusqu'à mon attitude envers ma famille, jusque dans mon choix de travail, de conjoint, de maison, jusqu'à mon temps devant les séries. Est-ce qu'on a pris conscience qu'avec Dieu, comme dit Mick, le rappeur qu'on a invité, c'est tout ou rien avec le Seigneur? Quand Dieu manifeste sa gloire, le souci de faire le bien apparaît alors. Soudainement. Et on le voit au verset 15. Et c'est exactement, si vous vous rappelez, l'expérience qu'avait vécu Ésaïe. Et il savait que ce qu'il avait vécu, son peuple devait le vivre également. Cette terreur devant le Dieu saint de Juda devrait, le peuple de Juda devrait y passer, devrait la découvrir. Car la puissance de Dieu et son caractère sont inséparables. Ceux qui n'ont pas une profonde préoccupation de faire le bien n'ont souvent qu'une faible vision de Dieu. Quel genre de changement un être humain doit-il subir pour vivre avec Dieu? Ce n'est pas un changement d'essence, pas devenir comme Dieu, mais bien un changement de caractère qui est décrit dans les versets 15 et 16. C'est la découverte qu'ont faite les Hébreux au Sinaï et qu'Ésaïe a également reconnu dans son Sinaï personnel. Si nous voulons habiter avec Dieu comme ses invités, nous devons partager son caractère. Le verset 15 nous le décrit à merveille. C'est la manifestation dans la vie et dans les paroles de ce qui est juste et droit. pas de petite entourloupe d'arrangements douteux, d'hypocrisie. Dieu déteste la religion qui suggère qu'elle puisse être limitée à un jour dans la semaine. Non, nous devons partager le caractère de Dieu, son souci pour la justice et pour l'amour du prochain, chaque jour de nos vies. Peut-on mériter cette union avec Dieu en menant une vie juste? Non, car ça serait confondre le produit avec la méthode. Une confusion que toutes les religions tomberont. Mais celui qui fait du caractère de Dieu le but de sa vie, verset 16, habite en Dieu. Ça, c'est énorme. Les circonstances n'ont plus d'emprise sur lui, maintenant que Dieu a intégré sa personnalité, de sorte que la sérénité est possible, même dans des circonstances difficiles. Cette personne a comme une source d'approvisionnement pour chaque besoin, y compris les besoins primaires, dont le pain et l'eau font partie, verset 16. Dieu est donc celui qui détruit nos ennemis. Dieu est aussi celui qui est un feu dévorant. Mais il est aussi, et c'est mon dernier point, il est aussi un surabri. Dieu est le seul surabri. Alors reposons-nous sur lui. En face de notre impuissance, c'était le cas d'Ézéchias avant, de cette impuissance à se sauver par lui-même. Lorsque par contre nous nous tournons vers Dieu, nous découvrons que Dieu est le seul véritable surabri et nous pouvons nous reposer sur lui. Prendre conscience de notre incapacité à tout gérer, c'est prendre conscience que nous ne sommes pas Dieu. Et c'est très dur d'expérimenter cette réalité. Pourtant, c'est le lieu du salut, de la délivrance, de l'intervention de Dieu. Et c'est à ce moment-là que l'on peut voir ce roi dans sa beauté, verset 17. Et là, on voit bien que ça dépasse tous les rois de ce monde. À ce moment-là, verset 18 et 19, le peuple de Dieu regarde et médite les difficultés passées avec sérénité. Verset 20 et verset 20 jusqu'à verset 22. Au lieu de voir les rois assyriens, les judéens verront Jérusalem en sécurité et protégée en raison de leur relation avec le vrai roi. Jérusalem sera alors la ville de nos rendez-vous, la cité de nos fêtes. Et ça, c'est pas important que la ville de Jérusalem soit une ville royale ou un temple. Non! Ce qui compte, c'est qu'elle soit le lieu où Dieu rencontre les humains. Pendant l'errance du peuple en Exode, Dieu se déplaçait continuellement avec son peuple. Mais maintenant, Dieu ne bougerait plus. Nous expérimenterions son repos permanent, verset 20. Là, la tente ne sera plus démontée. Là, le voyageur sera réellement revenu à la maison. Dans cette vie, nous sommes tous dans une tente. La personne qui s'en rend compte est heureuse. Mais un jour, les tentes seront arrimées, accrochées pour toujours, verset 20. Et là où Dieu sera, nous serons en sécurité. Verset 22, cette confiance en Dieu, elle puise dans l'identité même de qui il est, dans son caractère divin. Parce que Dieu est juge, chef. Nous dit le verset 22, il sera son champion et son défenseur. Parce que Dieu est notre législateur, il sera plus qu'équitable dans ses relations avec nous. Parce qu'il est notre roi par alliance, il nous délivrera. L'un des points principaux des chapitres 7 à 35 était de savoir si le peuple hébreu permettrait à Dieu d'être son roi ou s'il nierait cette royauté en faisant confiance aux nations environnantes. Pouvons-nous faire confiance à Dieu pour nous sauver? Ici, le prophète répond à son peuple en disant « Oui, il est notre roi et lui seul nous sauvera. » Ses promesses pour l'avenir ne découlent pas d'un déni des graves conditions actuelles, verset 23. « Ne vous me prenez pas, dit-il, notre avenir glorieux, notre triomphe sur nos ennemis ne provient pas de ce que nous sommes sur un navire puissant, comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, verset 21. Nous sommes une carcasse qui dérive. Notre espoir est dans un roi qui guérit la maladie et pardonne les péchés, verset 24. Et on voit que la délivrance n'est pas que matérielle. L'accent final mis sur le pardon du péché, du mal, qui est non seulement commis devant les autres, mais surtout commis devant Dieu, revêt une importance considérable. Le besoin de Judas, plus profond qu'un besoin d'être libéré de l'oppression, en fin de compte, dit Ésaïe. Au cœur de notre problème, au cœur du problème de l'humanité, c'est une relation brisée avec Dieu à cause du péché, de la faute commise devant lui. Lui, le Dieu juste et parfait, celui qui aime parfaitement en comparaison de nous. Ainsi, la simple défaite des ennemis et la restitution de la terre ne suffira pas. Le but final de Dieu est un peuple pardonné, vivant, une vie conforme à son caractère. Beaucoup recherchent la sécurité sur cette terre par toutes sortes de moyens. Une sécurité malheureusement qui est éphémère et qui s'évapore à notre mort. Mais qui recherche la véritable sécurité éternelle? Celle qui provient du Dieu saint et parfait. Celui qui juge le mal et qui est prêt à intervenir, à aimer. C'est cette sécurité qui devrait mériter notre soupir le plus profond. Peut-être qu'au milieu de nos grandes détresses aujourd'hui, le Seigneur veut vous accorder le maintenant de sa délivrance. C'est à vous que revient de crier vers lui pour obtenir son pardon, pour obtenir sa grâce, ça veut dire son intervention, sa justice, pour vivre à sa ressemblance. C'est à vous que revient cette responsabilité. Votre sécurité éternelle en dépend. Dieu attend, comme on l'a vu la fois dernière, que nous nous tournions vers lui. Je vous invite à prier. Tu vois, Père éternel, notre attitude si souvent tournée vers nous. Notre incapacité à te faire confiance malgré nos détresses. Nous cherchons des plans sur lesquels nos vies peuvent s'appuyer, sur lesquels nous pouvons nous reposer et nous voyons en même temps que ces plans sont fragiles et qui s'effritent si rapidement. Nous oublions si souvent qui tu es. Tu es celui qui délivre. Tu es celui qui est saint et parfait. Et tu es celui qui veut nous donner ce sur-abri. Permets-nous d'en saisir la substance, de le méditer quotidiennement. Pour que nous puissions vivre avec confiance. Pour que nous puissions être habités par le bien. Et pour que nous puissions nous reposer véritablement sur toi. Je te prie que tu aides mes frères et sœurs à vivre cette réalité. Que tu aides les personnes qui ne te connaissent pas à faire ce pas de placer leur sécurité en toi. Au nom de Christ.